Chapitre 6. L'odeur de la folie. Apercevant Danil près d'un feu, Perrine se faufila entre les chevaux pour le rejoindre. Dès qu'ils le virent, les autres gardes de rivière se levèrent et s'écartèrent pour lui laisser de la place. Pas certain qu'il ait envie de témoignage de sympathie, ils évitèrent de le regarder, les yeux baissés sous leur capuche.
« Tu sais où sont les hommes de Massema ?»
demanda Perrine à Danil. Il dut ensuite étouffer un bâillement. Son corps voulait dormir. Mais ça aurait été une perte de temps.
« Un peu plus d'une lieue au sud-ouest, »
répondit Danil. Agacé, il tira sur sa moustache. Donc, les deux crétines avaient dit vrai.
« Ils arrivent comme des canards dans le bois de l'eau en automne. On dirait des types qui viennent d'écorcher leur propre mère. »
Lem Aldaï, un gars au visage chevalin, cracha par terre, à travers le trou qui remplaçait deux de ses dents de devant. Le souvenir d'une altercation avec le garde du corps d'un marchand de laine, des années plus tôt. Lem adorait les bagarres, et il semblait pressé d'échanger des nions avec les sbires de Massema.
« Ces types écorcheraient n'importe qui sur un ordre du prophète, » confirma Perrine. « Il serait plus prudent d'en informer tout le monde. Danil, tu sais comment sont morts les hommes de Berelaine ?»
Danil acquiesça, et d'autres hommes marmonnèrent dans leur barbe.
Vous savez tous, donc. Mais jusque-là, il n'y a pas de preuves.
Lem ricana, et les autres parurent aussi révulsés que Danil. Tous avaient vu les cadavres que la vermine du prophète laissait derrière elle. De plus en plus dense, la neige menaçait de tout recouvrir. Pour se protéger du froid, les chevaux rentraient la queue. Dans quelques heures, voire plus, le blizzard se déchaînerait. Pas le genre de temps où on s'éloignait des feux, en principe.
Rappelle les gars postés sur la butte. Puis filer vers le site de l'embuscade.
Une des décisions que Perrine avait prises sur le chemin du camp. Quelle que soit la menace, il avait déjà trop tardé. Les Aiel renégats avaient trop d'avance, et s'ils s'étaient dirigés ailleurs que vers le sud ou l'ouest, quelqu'un serait déjà revenu avec cette information. À l'heure qu'il était, il devait s'attendre à ce que Perrine les suive.
Nous chevaucherons jusqu'à ce que j'aie une idée plus précise de notre destination. Après, Grady et Néald nous feront gagner du temps avec un portail. Danil, envoie des messagers à Berelaine et à Arganda. Je veux que leurs forces lèvent le camp aussi. Il nous faudra des éclaireurs et une protection sur chaque flanc. Dis à ces hommes de ne pas se focaliser sur les Aiel, parce que d'autres ennemis pourraient avoir l'intention de nous massacrer. Je ne veux pas tomber dans un piège. Demande aussi au matriarche de rester près de nous.
Malgré ses ordres, Arganda était bien fichu d'essayer de soumettre ses femmes à la question. Et si elle tuait un de ses soldats en se défendant, il serait capable de ne plus en faire qu'à sa tête, serment d'allégeance ou pas. Or, Perrine aurait parié qu'il lui faudrait bientôt tous les combattants dont il pouvait disposer.
Sois très ferme, sans pour autant les vexer.
Danil n'avait pas bronché sous cette avalanche d'ordres. Le dernier lui arracha pourtant une grimace. Autant essayer d'être ferme avec le cercle des femmes de Champ des Mondes.
À tes ordres, Seigneur Perrine.
Dit-il avec un petit salut. Puis il sauta en selle et commença à distribuer ses instructions. Entouré d'hommes qui enfourchaient leurs montures, Perrine tira sur la manche de Kenly Myrin, un jeune gars qui n'avait encore qu'un pied dans un étrier. Quand il lui eut demandé d'aller faire sceller marcheur puis de le lui amener, Kenly sourit et salua avec ardeur.
« À tes ordres, Seigneur Perrine. Je me dépêche. »
Perrine soupira intérieurement, pendant que le jeune type filait vers les piquets des chevaux, tirant son hongre marron par la bride. Si c'était pour la gratter tout le temps, ce genou n'aurait pas dû se laisser pousser la barbe. De toute façon, elle était minable. En attendant sa monture, Perrine se rapprocha des flammes. Fayle l'avait averti qu'il devrait s'habituer au Seigneur Perrine, au salut et aux courbettes. En général, il n'y faisait plus attention, mais aujourd'hui, ça le déprimait. Un fossé se creusait entre ses anciens amis et lui, et il semblait être le seul à vouloir le combler. Basel Gill le trouva en train de se réchauffer les mains et de ronchonner dans sa barbe.
« Navré de te déranger, Seigneur, »
dit-il en s'inclinant. L'espace d'une seconde, il retira son chapeau, révélant un crâne presque chauve, puis le remit pour se protéger de la neige. Citadin endurci, il craignait le froid. Ce gros bonhomme n'était pas obséquieux. Peu d'aubergistes de Kemlin donnaient dans ce registre, mais il appréciait le protocole. Du coup, Il s'était assez adapté à son nouveau travail pour satisfaire Feil.
C'est le jeune Talanvor. Dès l'aube, il a scellé son cheval et il est parti. Il prétend que tu lui en as donné l'autorisation si les groupes de recherche n'étaient pas revenus à ce moment-là. Je m'interroge parce qu'on a laissé sortir personne d'autre.
L'imbécile. Même s'il n'avait jamais été prolixe sur son passé, Talanvor présentait toutes les caractéristiques d'un soldat expérimenté. Mais seul contre des Aiel, il était un lièvre parti à la chasse aux hyènes.
Lumière, que ne donnerais-je pas pour être avec lui? Je n'aurais pas dû écouter Berelein au sujet des embuscades.
Mais il y avait eu une autre embuscade, et les éclaireurs d'Arganda risquaient aussi de mal finir. Tant pis, il devait y aller. Il le fallait.
Oui,
mentit-il.
Je lui en ai donné la permission.
S'il disait la vérité, il serait obligé de punir le jeune fou. Le fardeau des seigneurs, ça. S'il revoyait ce pauvre type vivant.
Basel, on dirait que vous aimeriez partir aussi en chasse.
Seigneur, j'ai beaucoup d'affection pour Megdin.
Une réponse très digne, et un rien crispé. Comme si Perrine venait de dire à l'ancien aubergiste qu'il était trop vieux pour ce genre de bêtises. Mais malgré son calme de façade, Gil exhalait bien l'odeur d'un mal vexé.
Rien de comparable au sentiment de Talanvor, mais c'est un attachement sincère. Bien sûr, j'aime beaucoup Dame Feil. C'est simplement que... Eh bien, j'ai l'impression d'avoir connu Megdin toute ma vie. Elle mérite un meilleur sort.
Le soupir de Perrine se transforma en buée devant sa bouche.
Je comprends, Maître Gil.
La stricte vérité. Lui-même, il espérait sauver toutes ses femmes. Mais s'il fallait choisir, il prendrait Feil et sacrifierait les autres. Comparé à sa femme, rien ne comptait. Malgré la forte odeur des chevaux, il capta une autre senteur d'agacement et se retourna pour voir de qui il s'agissait. S'écartant chaque fois qu'un cavalier pressé de rejoindre sa colonne manquait la renverser, Ligny le foudroyait du regard. Une main tenant les pans de son manteau, l'autre brandissait une massue à la tête hérissée de pointes. Un miracle qu'elle ne soit pas partie avec Talanvor.
Tu auras des nouvelles dès que j'en aurai,
promit Perrine. Son estomac gargouilla, lui rappelant le ragoût qu'il avait dédaigné. Sur sa langue, il crut sentir le goût de la viande et des lentilles. Puis il bâilla sans décrocher la mâchoire.
Excuse-moi, Ligny,
dit-il quand il put de nouveau parler.
Je n'ai pas beaucoup dormi. Et rien mangé depuis une éternité. Tu aurais quelque chose pour moi? Du pain, par exemple?
Tout le monde a mangé depuis longtemps, répondit la gouvernante. Il n'en reste plus de miettes, et les chaudrons, bien nettoyés, ont été rangés. Quand on picore dans trop d'assiettes, seigneur, on finit avec un mal de ventre carabiné. Surtout lorsqu'on ne se limite pas à 16 assiettes.
En marmonnant entre ses dents, Ligny jeta un dernier coup d'œil assassin à Perrine, puis s'enfuit en pestant contre le monde entier.
« Trop d'assiettes ?»
maugréa Perrine.
« J'en ai eu aucune. C'est ça mon problème, pas une indigestion. »
Ligny s'éloignait en slalomant entre les chevaux et les charrettes. Trois ou quatre hommes lui parlèrent au passage, mais elle les envoya bouler sans ménagement et en levant sa massue, au cas où il n'aurait pas compris. L'inquiétude pour Megdin devait lui faire perdre le contrôle de ses nerfs.
« Où était-ce un de ces dictons ?»
s'interrogea Perrine.
« D'habitude, ils ont plus de sens que ça.
Eh bien, au fait, je... »
Gil retira de nouveau son chapeau, en inspecta l'intérieur, puis s'en coiffa de nouveau.
« Je dois aller vérifier les charrettes, seigneur, pour m'assurer que tout est en ordre. »
« Une aveugle verrait que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ?»
Gil chercha une autre excuse, n'en trouva pas et blêmit.
« Je... tu l'apprendras tôt ou tard, je suppose. Ligny est... Ce matin, elle est allée dans le camp des gardes-ailés. Pour te chercher, puisque tu n'étais pas revenu. Il n'y avait pas de lumière dans la tente de la première dame, mais une de ses servantes était réveillée, et elle a dit... Enfin, insinué que... Je veux dire... Non, seigneur, ne me regarde pas comme ça.
Perrine tenta d'avoir l'air moins agressif. Sans grand succès, supposa-t-il, quand il s'entendit parler.
Que la lumière me brûle! J'ai dormi sous cette tente, mon gars. Dormi, c'est tout. Tu l'as dit à cette furie ?
Basil Gill faillit s'étrangler sur une quinte de toux.
Bon. Moi.
Couina-t-il, quand il peut de nouveau parler.
Seigneur, tu veux que je le lui dise ? Si j'aborde un sujet pareil, elle m'éclatera le crâne avec sa massue. Cette femme a dû naître à Farmading pendant un orage, et ordonner au tonnerre de se calmer. Je parie qu'il a obéi.
Tu es notre Chambayan,
rappela Perrine.
Ça ne consiste pas seulement à charger des charrettes sous la neige.
Il aurait voulu mordre quelqu'un. Gil le sentit. Après avoir marmonné une formule de politesse, il se détourna et s'enfuit à toutes jambes. Pas pour aller voir Lini. Perrine en aurait mis sa main au feu. Sa position lui permettait de dominer tous les domestiques, à part Lini. Elle, nul ne lui donnait d'ordre, fait l'excepter. Morose, le jeune homme observa les éclaireurs qui sortaient du camp et commençait déjà à regarder partout autour d'eux. Dès que c'était à son désavantage, les femmes gobaient n'importe quoi au sujet d'un homme. Et pire était la calomnie, plus elles prenaient plaisir à la répandre. Croyant d'abord que Rosen et Nana étaient le seul danger, ils devaient déchanter. Lini en avait probablement parlé à Brehan, l'autre servante de Feil, et à cette heure, toutes les femmes du camp devaient être au courant. Parmi les palefreniers et les cochers, il y en avait beaucoup, et en bonne kyrgyénienne, elles avaient dû se faire un devoir de tout raconter aux hommes. À Deux-Rivières, on ne voyait pas d'un bon œil les choses de ce genre, et une fois qu'on avait mauvaise réputation, s'en débarrasser n'était pas facile. Soudain, les hommes qui s'écartaient pour le laisser passer et les regards fuyants prirent un autre sens, le crachat de Lem aussi, et le sourire de Kenly, qui était peut-être bien un rictus. Seul point positif, Fail ne croirait pas un mot de cette histoire. Pas vrai ? Bien sûr qu'elle n'y croirait pas. Kenly revint enfin, Marcheur et son ongre tenus par la bride. Avec ce froid, les chevaux faisaient pitié. Les oreilles en berne, la queue rentrée, Marcheur n'essaya même pas de mordre la monture de Kenly, une activité qu'il adorait d'habitude.
« Ne montre pas tes dents tout le temps !»
marmonna Perrine, en prenant les rênes de son étalon. Kenly le regarda bizarrement, puis détala, en jetant de fréquents coups d'œil en arrière. De plus en plus grognon, Perrine vérifia la sangle de sa selle. Alors qu'il était temps d'aller dénicher Massema, il ne monta pas sur son cheval. Pour se rassurer, il songea qu'il était fatigué et qu'il avait faim. Un peu de repos, un repas rapide, et ça repartirait. Des fadaises. Dans sa tête, il revoyait les fermes brûlées et les pendus, de chaque côté de la route. Des hommes et des femmes, et même des enfants. Même si Rand était encore en Altara, ça faisait un long chemin. Une longue route, oui, et il n'avait pas le choix. Enfin, aucun qui puisse se satisfaire. Alors qu'il était debout, le front appuyé à sa selle, une délégation de Tchafeil lui tomba dessus. Une dizaine de jeunes imbéciles aveuglément fidèles à sa femme. Souhaitant que la neige les recouvre tous, il se redressa péniblement. Sélandé se campa face à lui, près de la croupe de marcheurs. Une petite femme, ses poings gantés de vert sur les hanches et le front barré d'une ride qui n'augurait rien de bon. Une frêle grenouille toujours prête à vouloir paraître plus grosse que le bœuf. Malgré la neige, un pan de son manteau était écarté pour lui fournir un accès rapide à son épée et exposer les six rayures qui ornaient sa veste bleu foncé. Toutes les femmes portaient des vêtements et des armes d'hommes. Dans ce groupe d'idiots, elles étaient deux fois plus enclines à dégainer leur quincaillerie que les mâles, pourtant un ramassis de jeunes coqs. Agressifs en toutes circonstances, ces crétins se seraient battus en duel tous les jours. Si Fail ne s'en était pas mêlé. Le groupe qui accompagnait Sélandé empestait la colère, la morosité et une irritation de mauvais augure.
« Je te vois, Seigneur Perrine, »
dit la jeune idiote avec un accent du Kéirien à couper au couteau.
« Le salut traditionnel des Aiel, dans cette bouche en cul de poule. »
« On se prépare au départ. Et pourtant, on nous empêche d'accéder à nos chevaux. Aurais-tu l'obligeance de régler ça ?»«
Tu me vois, c'est ça ?» Si tu savais ce que je donnerais pour ne pas te voir, justement. Les Aiel marchent,
lâcha Perrine. Il bâilla, se ficha comme d'une guigne du regard furieux de Sélandé, et tenta d'oublier jusqu'à la notion de sommeil.
Si vous ne voulez pas marcher, voyagez sur les charrettes.
Tu ne peux pas nous faire ça,
s'écria une théarienne, la main sur la poignée de son épée. très grande, les yeux bleus. Médoré était passé très près de la beauté absolue. Avec sa poitrine généreuse, les grosses manches rayées de rouge de sa veste ne faisaient pas un très bel effet.
« Hé, le rouge est ma monture préférée. On ne m'en privera pas. »«
C'est la troisième fois, »
dit Selande, mystérieuse.
« Ce soir, nous parlerons de ton taux, Médoré Damara. »
D'après les rumeurs, le père de Médoré était un homme âgé retiré dans son domaine depuis des années. Astoril n'en restait pas moins un haut seigneur. Toute chose égale par ailleurs, ça faisait de sa fille la supérieure de Selande, une noble mineure de Kairienne. Pourtant, la Théarienne déglutit péniblement et regarda autour d'elle comme si elle craignait qu'on veuille l'écorcher vive. Soudain, Perrine en eut plus qu'assez de ces imbéciles, de leur façon de se prendre pour des aïeuls alors qu'ils n'avaient rien dans le ventre, et de leurs âneries d'enfants gâtés.
« Quand avez-vous commencé à espionner pour ma femme ?»
demanda-t-il. Les jeunes débiles se pétrifièrent.
« Nous effectuons toutes les missions dont Dame Fail nous charge. »
répondit Selande après une assez longue réflexion. Dans son odeur, la méfiance dominait. Tous diffusaient l'angoisse d'un renard qui se demande si un blaireau n'a pas investi sa tanière.
« Ma femme est-elle vraiment partie chasser ?»
demanda Perrine, agressif.
« Elle n'en avait jamais manifesté l'intention. »
Après une accumulation d'avanie, la colère prit le dessus chez Perrine. Poussant Marcheur d'une main, il avança vers la jeune femme. Sentant l'humeur de son maître, l'étalon renacla. À force de serrer la bride, Perrine eut mal aux doigts dans ses gants.
« Où voulait-elle rencontrer certains d'entre vous ? Qui sortaient tout droit d'Abila ? A-t-elle été enlevée à cause de votre inepte espionnage ?»
C'était du délire. Perrine le sut dès que ces mots sortirent de ses lèvres. Fail aurait pu voir ses espions n'importe où, et elle se serait arrangée pour ne pas être en compagnie de Berelaine. Bref, parler sans réfléchir était toujours une erreur. S'il était informé des rencontres de Massema avec les Séanchaniens, c'était grâce à ces gens, si stupides soient-ils. Mais il avait envie de frapper. Il fallait qu'il frappe. Et les hommes qu'il rêvait d'écrabouiller étaient à des lieux de là, avec Fail. Les yeux réduits à des fentes, Selande ne céda pas un pouce de terrain. Au côté, elle portait une épée, et elle n'était pas seule.
« Pour Dame Fail, nous serions prêts à mourir »
cria-t-elle.
« Aucun de nos actes, jamais, ne l'a mise en danger. Ce qui nous lie à elle, c'est le serment de l'eau. »
« À elle, pas à moi, c'est très clair. »
Perrine aurait dû s'excuser, il le savait, mais il passa outre.
« Vous aurez vos chevaux, si vous promettez de m'obéir et de ne rien faire de précipité. »
Précipité était un euphémisme avec ces abrutis. Décérébrés, ils étaient fichus de foncer tête baissée dès qu'ils sauraient où était Fail et de provoquer sa mort.
« Quand nous l'aurons localisée, je choisirai la façon de la sauver. Si ça contrarie votre serment de l'eau, oubliez-le, parce que je ne me laisserai pas casser les pieds. »
Selande serra les dents, l'air outragé. Mais elle finit par capituler à contre-cœur.
« C'est d'accord. »
Un des Théariens, un type au long nez baptisé Carlone, grogna de mécontentement, mais Selande le fit taire d'un geste. Avec un menton si étroit, ce jeune idiot n'aurait jamais dû se raser la barbe. Selande dirigeait son groupe de crétins d'une main de fer, une autorité qui ne la rendait pas moins stupide que les autres. Le serment de l'eau, et quoi encore ?
« Nous t'obéirons jusqu'au retour de Dame Fail, »
dit-elle, les yeux rivés dans ceux de Perrine.
« Après, nous serons de nouveau à elle, et il lui reviendra de déterminer notre taux. »
Cette dernière remarque s'adressait plus aux jeunes imbéciles qu'à Perrine.
« Parfait, »
dit ce dernier. Il tenta de prendre un ton plus conciliant, sans grand succès.
« Je sais que vous lui êtes tous loyaux, et je vous respecte à cause de ça. Et de rien d'autre, même en cherchant bien. »
En guise d'excuse, ça faisait un peu juste. Et les jeunes gens ne manquèrent pas de s'en apercevoir. Alors que Selande se fendait d'un bruit de gorge maussade, ses camarades foudroyèrent Perrine du regard avant de se retirer. Qu'ils boudent tous leurs sous. Qu'importait, tant qu'ils tenaient parole. De leur vie, ces privilégiés n'avaient jamais levé le petit doigt pour subvenir à leurs besoins. Une bande de parasites. Le camp se vidait, les charrettes montées sur de gros patins se dirigeant déjà vers le sud. Alors que les chevaux laissaient de profondes empreintes, celles des patins étaient presque immédiatement comblées par la neige. Les derniers gardes de rivière descendaient de la butte, puis enfourchaient leurs chevaux et partaient à leur tour. Sur la gauche de Perrine, la colonne des matriarches était elle aussi ébranlée. Tout le monde à cheval, y compris les Gaïshain qui conduisaient les bêtes de bas. Quel que soit le degré de fermeté dont Daniel avait fait montre, ou non, ça s'était révélé suffisant. En selle, les matriarches avaient l'air très mal à l'aise, surtout comparé à la grâce aérienne de Séonide et de Massouri. Mais les Gaïshain étaient encore pires. Même s'ils chevauchaient depuis le troisième jour de neige, ils restaient couchés sur l'encolure de leur monture, s'accrochant à sa crinière, comme s'ils redoutaient de tomber à tout instant. Pour qu'ils consentent à pratiquer l'équitation, il avait fallu un ordre des matriarches. Et même ainsi, certains, dès qu'on ne les surveillait plus, se laissaient glisser au sol pour marcher. Perrine grimpa en selle. Lui aussi craignait une chute, mais il ne pouvait pas se dérober à ce voyage. Affaibli et affamé, il aurait donné n'importe quoi pour un morceau de pain, un peu de fromage ou un bon râble de lapin.
« Les œillets arrivent !»
cria quelqu'un en tête de la colonne, qui s'immobilisa aussitôt. D'autres voix firent passer le mot, comme si tout le monde n'avait pas déjà entendu. Prudents, des hommes décrochèrent l'arc pendu à leur épaule. Des conducteurs de charrettes se redressèrent sur leurs sièges pour mieux voir, ou sautèrent à terre afin de se réfugier sous leur véhicule. Perrine grogna dans sa barbe, puis talonna marcheur. En tête de colonne, Daniel et les deux porte-étendards étaient toujours en selle. Derrière eux, une trentaine d'hommes avaient déjà mis pied à terre, une flèche encochée dans leur arc. Grady et Néald étaient là aussi, toujours perchés sur leur monture, mais sondant les environs avec une sereine intensité. Tous les autres trépignaient d'excitation. Les achamans, eux, exhalaient l'odeur des hommes prêts à tout affronter. À travers les arbres, Perrine vit très nettement ce qu'ils observaient. 10 aïels voilés avançaient vers la colonne, l'un d'eux tenant un grand cheval blanc par la bride. Un peu derrière eux, 3 cavaliers encapuchonnés suivaient le mouvement. Les aïels se déplaçaient d'une étrange façon, et un paquet était accroché à la selle du cheval blanc. « Trop petit pour qu'il s'agisse d'un cadavre », constata Perrine avec un intense soulagement.
« Baissez vos arcs !»
ordonna-t-il.
« C'est le Hongre d'Aliandre. Ce sont nos aïels. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit de promises ?»
Une question de taille, quand on s'y connaissait un peu.
« J'avais à peine reconnu des aïels »,
marmonna Daniel. Tous les gardes de rivière savaient que leur chef avait des yeux d'aigle. Même s'ils s'en rengorgeaient, du moins jusque-là, Perrine tentait de leur cacher à quel point son acuité visuelle était bonne. Là, il était trop anxieux pour s'en soucier.
« Ce sont nos alliés, Daniel. Personne ne bouge !»
Perrine avança vers les promises, qui baissèrent leur voile à son approche. Dans les ombres de la capuche d'un cavalier, il reconnut le visage de Furen Alara. Bien. C'étaient donc les 3 champions. Leurs chevaux, nota-t-il, étaient à bout de force, comme lui. Perrine aurait voulu lancer marcheur au galop, pour entendre enfin le rapport de ses éclaireurs. En même temps, il redoutait ce que ces gens avaient à lui dire. Les corbeaux avaient dû s'attaquer aux cadavres, sans parler des renards et d'une multitude d'autres prédateurs. En ne rapportant pas ce qu'elles avaient trouvé, les promises pensaient peut-être ménager le pauvre veuf. Non, Feil était vivante. Il devait s'en persuader. Mais c'était douloureux. Comme quand on tentait de saisir à main nue une lame aiguisée. Mettant pied à terre, Perrine dut s'accrocher à la sangle de sa selle pour ne pas s'étaler. Se concentrer sur cette pensée positive, « Fail ne peut pas être morte », consumait le peu d'énergie qui lui restait. Sa femme devait être vivante. Pour une raison inconnue, les plus petits détails prirent soudain une importance capitale. Par exemple, ce n'était pas un paquet qui pendait à la selle, mais plusieurs petits ballots. D'autre part, les promises portaient des chaussures de neige improvisées avec des lianes et des branches de chêne encore laissées d'aiguilles. Voilà pourquoi elles marchaient bizarrement. John Dean avait dû leur montrer comment fabriquer ces précieux équipements. Bon sang, il devait se concentrer. Mais son cœur cognait si fort contre ses côtes. Ses lances et sa rondage dans la main gauche, Souline s'empara d'un des ballots et avança vers le jeune homme. Quand elle sourit, la cicatrice rose qui barrait sa joue s'étira.
« Nous avons de bonnes nouvelles, Perrine Aibara. »
L'aïel tendit le ballot de tissu bleu à son interlocuteur.
« Ta femme est vivante !»
Alara échangea un regard appuyé avec Terrill Winter, l'autre champion de Séonide. Robert Kirklin, celui de Massouri, regarda fixement devant lui. À l'évidence, les trois hommes n'auraient pas mis leur tête à couper qu'il s'agissait de bonnes nouvelles.
Les autres ont continué pour voir ce qu'ils pouvaient découvrir,
précisa Souline.
Même si nous avons trouvé pas mal de choses bizarres.
Perrine défit le ballot. C'était la robe de Fail, coupée sur le devant et le long des manches. Il inspira à fond, s'emplissant les poumons du parfum et de l'odeur de sa femme. Pas de senteur de sang. Toutes d'âge mûr et les traits durs, moins que ceux de Souline cependant, les premiers se massèrent autour de Perrine. Sans trahir de fatigue, après une nuit entière en selle, les champions mirent pied à terre, mais restèrent à bonne distance des aïeuls.
Tous les hommes ont été tués,
annonça Souline.
Si on se fie aux vêtements que nous avons trouvés, Aliandre Kigarin, Megdin Dorlane, Lassil Aldorwin, Arela Chiego et deux autres femmes sont désormais des Gaishain.
Les deux autres femmes devaient être Bane et Shiad. Pour Souline, citer leur nom alors qu'elles avaient été capturées aurait été humiliant. À force, Perrine en avait appris long sur les aïels.
C'est une violation des coutumes, mais ça les protège.
Les coupes sur la robe de Fail étaient nettes et franches. Comme lorsqu'on écorche un animal. Quelqu'un, compris Perrine, avait découpé les habits de sa femme sur son corps.
Ils n'ont pris que les femmes ?
Brienne, une jeune promise aux joues rondes, secoua la tête.
Trois hommes auraient pu être capturés aussi. Mais ils se sont trop bien défendus. Et on les a tués à coups de couteau ou de lance. Tous les autres étaient criblés de flèches.
« Ce n'est pas ce que tu crois, Perrine Aibara !»
dit Elienda, l'air outragé. Très grande, les épaules larges, cette promise parvenait à avoir quelque chose de maternel. Pourtant, Perrine l'avait vue assommer un type à coups de poing.
« Maltraiter un Gaishain, c'est comme s'en prendre à un enfant ou à un forgeron. Capturer des gens des terres mouillées est une faute, certes, mais nos ennemis n'iront pas plus loin dans la transgression. Les prisonnières ne seront même pas punies, si elles se tiennent tranquilles jusqu'à ce qu'on les retrouve. » Et on saura leur donner de bons conseils à ce sujet.
Ce « on », c'était encore Bane et Shiad, bien entendu.
« Dans quelle direction sont-ils partis ?»
demanda Perrine. Se tenir tranquille, Fail, voilà qui n'était pas son genre. Avec un peu de chance, elle essaierait, jusqu'à ce qu'il la retrouve.
« Presque au sud, » répondit Souline. « Enfin, plus près du sud que de l'est. La neige a couvert leurs traces. » Mais John Dean Baran en a vu d'autres ensuite. Ce sont celles d'un groupe différent. Moi, je crois, John Dean. Il a un aussi bon œil qu'Elias Matchera. Il y a beaucoup de choses à voir.
Souline coinça ses lances dans son dos, derrière l'étui de son arc, puis elle suspendit sa rondache au manche de son coutelas. Ensuite, elle parla par signe, et Elienda saisit un deuxième ballot, plus gros que le premier, et le lui tendit.
Beaucoup de gens se déplacent là-bas, Perrine Aibara. Et d'étranges choses sont en cours. Mais d'abord, tu dois voir ça.
La promise déplia une autre robe découpée, verte celle-là. Perrine se rappela l'avoir vue sur Aliandre.
Ces flèches, nous les avons retrouvées à l'endroit où ta femme a été capturée.
Le ballot contenait une cinquantaine de projectiles Aiel. Du sang séché souillait les hampes, son odeur montant aux narines du jeune homme.
Tardad,
dit Souline, en saisissant une flèche qu'elle jeta aussitôt au loin.
« Miagoma !»
Elle laissa tomber deux autres projectiles.
« Gauchienne !»
La promise fit la moue. Elle-même était une gauchienne. Une à une, elle nomma toutes les tribus, à part les Shaido. En même temps, elle jeta par terre un peu plus de la moitié des flèches.
« Shaido !»
dit-elle enfin, en secouant le ballot avant de le retourner d'un geste vif. La robe de Fail serrée contre lui, l'odeur l'apaisait et en même temps lui déchirait le cœur, Perrine étudia les projectiles éparpillés sur le sol. Déjà, certains disparaissaient sous la neige fraîche.
« Trop de flèches Shaido, »
soupira-t-il. Les Shaido auraient dû être presque tous coincés dans la dague de fléau de sa lignée, à 500 lieues de là. Sauf si certaines de leurs matriarches avaient appris à voyager. Ou si un des rejetés, par la lumière. Perrine radotait comme un vieux fou. Quel rapport avec le rejeté ? Radoter alors qu'il aurait dû réfléchir. Mais son cerveau ne valait pas mieux que le reste de sa personne.
Les autres Aiel sont des guerriers qui refusent d'accepter rang comme leur Karakarn.
Les maudites couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Perrine. Mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Seul Fail comptait.
Ils se sont alliés au Shaido.
Plusieurs promises détournèrent les yeux. Alienda, en revanche, foudroya Perrine du regard. Non qu'il eût proféré un mensonge, mais des choses pareilles ne se disaient pas à voix haute.
Combien de Shaido sont ici? Pas la tribu entière, quand même.
Si c'était le cas, il y aurait eu plus que des rumeurs de raids lointains. Au milieu de tous ces autres problèmes, la Madicia tout entière serait au courant.
Mais pas loin non plus,
marmonna Winter entre ses dents. Une remarque que Perrine n'aurait pas dû pouvoir entendre. Fouillant dans les ballots suspendus à la selle du cheval blanc, Souline en sortit une poupée de chiffon, vêtue d'un caninsor.
Elias Matchera l'a trouvée avant que nous fassions demi-tour. À environ 15 lieues d'ici.
La promise secoua la tête. À son odeur, Perrine comprit qu'elle était troublée.
Elias prétend l'avoir sentie sous la neige. Avec John Dean Baran, ils ont repéré sur les troncs d'arbres des entailles laissées par des charrettes. Un très grand nombre de charrettes. Perrine Aibara, je crois que nous avons affaire à un clan au complet. Et peut-être plus que ça. Un seul clan, ça représente au minimum 1000 lances. Et davantage en cas d'urgence. Quand ça se présente, à part les forgerons, tous les hommes prennent les armes. Ces Shaido sont à des jours de marche d'ici. Combien, c'est difficile à dire à cause de la neige. Et ceux qui ont enlevé ta femme tentent de les rejoindre.
Ce forgeron s'est armé d'une lance,
souffla Perrine. 1000 guerriers, peut-être plus. Lui, il en avait 2000, en comptant les gardes-ailés et les hommes d'Arganda. Contre des Aiel, l'avantage du nombre n'était pas là où on aurait pu le croire. Perrine tapota la poupée que tenait Souline. Une petite Shaido pleurait-elle parce qu'elle l'avait perdue? Alors qu'il allait enfourcher Marcheur, Souline le retint par le bras.
Je t'ai dit que nous avons vu autre chose. Deux fois, Elias Matchera a trouvé des déjections de cheval sous la neige. Et des vestiges de feu de camp. Beaucoup. Beaucoup de chevaux et de feu, je veux dire.
Des milliers,
intervint Alara. Les yeux dans ceux de Perrine, il fit un rapport clair et précis.
5 000 au moins, et peut-être le double.
Des camps militaires, en tout cas. La même troupe dans les deux endroits, selon moi. Matchera et Baran partagent mon analyse. Quoi qu'il en soit, ces nobles se dirigent eux aussi presque vers le sud. Bien sûr, ils peuvent n'avoir aucun lien avec les Aiel, mais il est possible aussi qu'ils les suivent.
Souline plissa le front à l'intention du champion, puis elle enchaîna.
En 3 occasions, nous avons vu des créatures volantes comme celles qu'utilisait Sehan Chanien, selon toi. Et nous avons aussi relevé 2 fois de curieuses empreintes.
Souline se baissa, prit une flèche, et dessina dans la neige ce qui ressemblait à une empreinte d'ours, mais avec 6 orteils plus longs que l'index d'un homme.
Cette créature a aussi des griffes, plus grosses que celles des ours des montagnes de la brume, et elle doit courir très vite. Tu sais ce que c'est?
Perrine secoua la tête. À part les félins de Deux-Rivières, il n'avait jamais entendu parler de créatures ayant 6 orteils.
Une autre bête, c'est Anshanienne,
devina-t-il sans grand mérite. Donc, au sud, en plus des Shaido, il y avait des Sehanshaniens, et sans doute aussi des capes blanches. C'était ce que suggéraient les renseignements de Balwer, et il se fiait au petit homme.
On continue quand même vers le sud.
Les promises regardèrent Perrine, comme s'il venait d'annoncer qu'il neigeait. Après s'être hissé sur le dos de Marcheur, le jeune homme alla rejoindre la colonne. Les champions le suivirent, leur monture tenue par la bride. En emmenant le cheval blanc, les promises allaient rejoindre les matriarches. Massouri et Séonide, elles, chevauchaient à la rencontre de leur champion. Pourquoi n'étaient-elles pas venues fourrer leur nez dans cette affaire? Se demanda Perrine. Peut-être parce qu'elles entendaient le laisser seul avec son chagrin, si les choses tournaient mal. Oui, c'était possible. Malgré son cerveau déficient, Perrine tenta de récapituler. Les Shaido, sans doute très nombreux, les Sehanshaniens. Une puissante force montée, soit des capes blanches, soit des troupes Sehanshaniennes différentes. Au fond, ça ressemblait au puzzle que Maître Luhan lui demandait de fabriquer. Des pièces de métal qui s'assemblaient comme dans un rêve quand on connaissait l'astuce. Mais dans son état d'abrutissement, rien ne semblait vouloir coller ensemble. Quand il les rejoignit, les hommes de Deux-Rivières étaient tous remontés en selle. Ceux qui avaient mis pied à terre, arc armé, semblaient déconcertés. comme le montrait leur regard gêné.
« Elle est vivante !»
annonça Perrine. Tous les gars semblaient respirer de nouveau. Impassibles, ils écoutèrent les autres nouvelles, certains hochant la tête comme si elles ne les surprenaient pas.
« Les probabilités seront contre nous ?»
lança Danil.
« Et alors ? Ce ne sera pas la première fois. Que faisons-nous, monseigneur ?»
Perrine fit la grimace. Danil continua à lui donner du monseigneur.
« Pour commencer, nous allons voyager vers le sud. Une bonne quinzaine de lieues. Après, j'aviserai. Néald, pars en éclaireur. Retrouve Elias et ses compagnons. Et dis-leur ce que j'ai décidé de faire. À l'heure qu'il est, ils doivent avoir beaucoup d'avance sur nous. Surtout, sois prudent. Contre 10 ou 12 matriarches, tu n'aurais pas une chance. »
Un clan entier devait compter au minimum ce nombre de matriarches capables de canaliser. Et s'il y avait plusieurs clans ? Un marécage que Perrine devrait bien traverser, si la situation se présentait. Néald hocha la tête, puis fit volter son ongre et repartit en direction du camp, où il avait déjà mémorisé le terrain. Il ne restait plus que quelques ordres à donner, comme envoyer des cavaliers à la rencontre des hommes de Mayenne et de ceux du Gealdan. Puisqu'il faisait camp à part, ses soldats se déplaçaient aussi séparément. Grady pensant pouvoir mémoriser le terrain ici, avant que la jonction ait eu lieu, il n'était pas utile que la colonne retourne en arrière sur les pas de Néald. Du coup, Perrine n'avait plus qu'une tâche sur sa liste.
« Danil, je dois retrouver Massema. Ou au moins quelqu'un qui puisse lui délivrer un message. Avec un peu de chance, je ne serai pas long. Si tu t'aventures seul parmi ces crapules, monseigneur, tu auras besoin de beaucoup de chance. J'ai entendu certains de ces types parler de toi. À cause de tes yeux, ils pensent que tu es une créature des ténèbres. »
Danil croisa le regard de Perrine et détourna la tête.
« Selon eux, le dragon réincarné t'a maté. Tu n'en restes pas moins un monstre. À ta place, je ne partirai pas sans une petite escorte. »
Perrine hésita. Si les sbires de Massema décidaient de lui régler son compte, une petite escorte ne suffirait pas. Dans ce cas de figure, tous les gars de Deux-Rivières risquaient de ne pas faire le poids. Devait-il vraiment contacter Massema ? Après tout, il s'apercevrait bien qu'il y avait un problème. Perrine capta le tri d'une mésange à l'ouest. Quelques instants plus tard, un autre lui répondit, audible par tous. Eh bien, voilà qui le dispensait de prendre la décision. Peut-être à cause de sa nature de taverne, il en avait l'absolue certitude. Faisant pivoter marcheur, il attendit. Les hommes de Deux-Rivières captèrent aussi le message, lancé en imitant un des oiseaux emblématiques de leur territoire. Des hommes approchaient, fort nombreux. Et ils n'étaient pas obligatoirement amicaux. S'il s'était agi d'alliés, un tri de rossignol aurait retenti. Et en cas d'ennemi franchement déclaré, ça aurait été celui d'un oiseau moqueur. Cette fois, les gars de Deux-Rivières réagirent selon le protocole. Tout au long de la colonne, un homme sur deux mit pied à terre, confia les rênes de sa monture à son compagnon encore monté, puis saisit son arc et l'arma. Sur une seule ligne, sans doute pour sembler plus nombreux, les nouveaux venus apparurent entre les arbres largement espacés. Une centaine de cavaliers, deux d'entre eux légèrement détachés en tête, qui avançaient assez lentement pour en devenir menaçants. La moitié portait une lance prête à être brandie à l'horizontale. Certains arboraient une cuirasse ou un casque, mais très rarement les deux. Cela dit, ces types étaient mieux armés que les sbires habituels du prophète. Massema était un des deux membres de l'avant-garde. Dans les ombres de sa capuche, ses yeux brillaient comme ceux d'un félin des montagnes enragées. La veille, combien de ses lances arboraient encore un ruban rouge ? À quelques pas de Perrine, Massema leva un bras pour ordonner à son escorte de s'arrêter. Abaissant sa capuche, il étudia les archers de Deux-Rivières prêts à tirer. Impassible, il ne sembla pas s'apercevoir que des flocons s'écrasaient sur son crâne chauve. Son compagnon, une épée accrochée dans le dos et une autre pendue au pommeau de sa selle, garda sa capuche. Pourtant, Perrine crut deviner que lui aussi avait le crâne rasé. Son regard noir brillant presque autant que celui de Massema, il observait la colonne, sans cesser de garder le prophète dans son champ de vision. Perrine fut tentée de signaler qu'un arc long de Deux-Rivières, à cette distance, pouvait envoyer un projectile capable de traverser de part en part une cuirasse et le torse de son porteur. Il envisagea aussi d'évoquer les Cernchaniens. Mais Bérélein lui avait conseillé de ne pas trop remuer d'air. Un avis judicieux, dans les circonstances présentes.
« Tu venais à ma rencontre ?»
lança le prophète. Sa voix vibrait d'intensité, même quand il prononçait des paroles qui auraient pu passer pour banales dans la bouche de quelqu'un d'autre. Il sourit, étirant la cicatrice triangulaire sur sa joue.
« Qu'importe, je suis là maintenant. Comme tu le sais sans doute déjà, les fidèles du dragon réincarné, que la lumière brille sur son nom, refusent d'être laissés en arrière. Je ne peux pas l'exiger d'eux, car ils servent le dragon tout autant que moi. »
Perrine vit une marée de flammes venue d'Amadicia déferler sur l'Altara, et peut-être de là, en laissant sur son passage une piste de mort et de désolation. Inspirant à fond, le jeune homme sentit l'air glacial s'engouffrer dans ses poumons. Fail passait avant tout, oui, avant tout. Et s'il devait en crever, eh bien, il en crèverait.
« Conduis tes hommes à l'est !»
dit-il, surpris par tant de calme dans sa voix.
« Je te rattraperai dès que possible. » Tes aïeuls ont enlevé ma femme, et je file vers le sud pour la récupérer.
Pour une fois, Masséma trahit sa surprise.
Tes aïeuls ? Ainsi, ce n'est pas une rumeur.
Le prophète fronça les sourcils en observant les matriarches, tout au bout de la colline.
Vers le sud, dis-tu ?
Ses mains gantées croisées sur le pommeau de sa selle, Masséma entreprit de dévisager Perrine. Dans son odeur, le jeune homme capta l'entêtante senteur de la folie.
« Je vais t'accompagner, »
dit enfin le prophète, comme s'il venait de prendre une décision. Étrange, considérant qu'il s'était montré très impatient de rejoindre Rand. À condition de ne pas être touché par le pouvoir, cependant.
« Tous les fidèles du dragon réincarné, que la lumière brille sur son nom, viendront aussi. Tuer des aïels, c'est sauvage. C'est accomplir l'œuvre de la lumière. »
Son sourire encore plus glacial qu'avant, Masséma tourna la tête vers les matriarches.
« J'apprécierais ton aide, »
mentit Perrine.
« Mais il y a un problème. »
Ces minables ne serviraient à rien contre des aïels. Cela dit, ils étaient des milliers et avaient vaincu des armées. Pas des armées d'aïels, certes, mais... Dans la tête de Perrine, une pièce du puzzle se mit en place. Mort de fatigue, il n'aurait su dire comment. Mais c'était un fait. De toute manière, ça n'arriverait pas.
Un problème, oui. Ces aïels ont beaucoup d'avance sur moi. Pour les rattraper, j'entends voyager, avec le pouvoir de l'unique, évidemment. Et je sais ce que tu en penses.
Derrière Masséma, des murmures coururent dans les rangs. Se regardant, les hommes agitèrent leurs armes. Perrine entendit quelques yeux jaunes et créatures de ténèbres qui parlaient d'eux-mêmes. Alors que son compagnon foudroyait le jeune homme du regard, comme s'il venait de blasphémer, Masséma ne broncha pas. Concentré comme s'il voulait faire un trou dans la tête de son interlocuteur pour voir ce qu'elle contenait.
« S'il arrivait malheur à ta femme, il aurait beaucoup de chagrin, »
lâcha le prophète fou. Interdisant qu'on prononce le nom de Rand, Masséma avait l'air d'accentuer comme il le fallait la troisième personne du singulier. Même s'il parlait d'un ton calme, pour lui, les yeux de Masséma brûlaient de rage, et la colère distordait ses traits. Perrine ouvrit la bouche, mais la referma sans parler. Après ce que Masséma venait de dire, le soleil aurait tout aussi bien pu se lever à l'ouest. Soudain, le jeune homme se demanda si Fail, au milieu des Chaïdos, n'était pas plus en sécurité que lui.